Moi, ce qui me frappe sur l'évolution de l'enseignement de l'économie et sur la façon dont tout ça s'est emmanché, c'est effectivement cette idée, qui est une idée assez répandue, que l'avis de tout le monde est tout à fait acceptable, que tout le monde peut émettre un avis en matière d'économie et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et ça traduit le fait qu'on n'arrive pas à se faire l'idée que l'économie est une science. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi je pense que l'économie est une science, les conséquences qu'il faut en tirer sur la méthode que s'applique l'économie et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'enseignement. Alors, pourquoi c'est une science? Alors, Jean-Louis a parlé des médecins qui ne peuvent pas prévoir les épidémies. Il y a une histoire qui est une histoire qui est vraie, que je trouve très intéressante. Lors d'un tremblement de terre en Italie, la justice italienne, qui a une capacité effectivement à remettre en cause pas mal d'éléments dans la société, a mis en prison un certain nombre de géologues pour non-assistance à personne en danger. Les géologues ont. Et donc, ils ont été convoqués par les juges qui leur ont dit, vous êtes les géologues, vous êtes savants, donc vous étiez capables de prévoir le tremblement de terre, vous n'avez rien dit, donc vous êtes complices de la mort de tous les gens. Alors les géologues ont dit, ah ben non, mais on était absolument incapables de prévoir quoi que ce soit. Bon, alors on est libre. Non, non, vous êtes toujours en prison, mais pour détournement de fonds publics. Parce que vous êtes payé par des contribuables pour faire quelque chose qui ne sert à rien. C'est vous-même qui le reconnaissez. Et je crois que pour les économistes, l'enjeu est un peu de la même nature. C'est-à-dire, c'est la reine d'Angleterre qui, après la crise de 2009, visitant la London School of Economics, dit aux gens, à quoi vous servez si vous n'avez pas été capable de prévoir ce qui s'est passé en la récession? Et alors bon, en plus elle s'abat sur un malheureux qui est un professeur invité, qui parle pas anglais, il est espagnol, donc il lui répond même pas, donc ça l'agace, parce que quand il est la reine d'Angleterre, on a un certain nombre de gestes de déférence, et lui, évidemment, il est comme tu le dis, tout le monde est supposé parler anglais, mais personne ne le comprend quand on est en Angleterre. Et donc, il subit ça, donc on réagit, et la réponse des économistes, ça s'appelle réponse à la reine d'Angleterre, je vous renvoie à l'ensemble des textes qui ont été produits dans réponse à la reine d'Angleterre, la réponse ultime qui est supervisée par le Trésor britannique, c'est de dire, oui, il y a eu une sorte d'aveuglement collectif, mais nous prenons l'engagement, Majesté, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bon, jusqu'à la prochaine crise, c'est-à-dire quand il y aura de nouveau une récession, j'espère pour la reine d'Angleterre qu'elle sera encore là, et j'espère pour les citoyens qu'elle sera morte depuis longtemps, mais à la prochaine récession, de nouveau, si elle est toujours là, elle va dire, et alors? Et dire, écoutez, bon. Donc je crois que des premiers enjeux, c'est de définir en tant que science ce qu'on attend de l'économie, c'est-à-dire. En quoi c'est une science? Puisque ce n'est pas prédictif, ce n'est pas comme la physique, il n'y a pas un déterminisme absolu. Et donc, je crois que, un des enjeux pour les économistes, c'est de faire comprendre aux gens à qui ils s'adressent ce qui relève de leur capacité d'interprétation, de compréhension, dans leur capacité d'enchaînement de cause à effet, et puis ce qui relève des aléas. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe là aussi, quand on enseigne l'économie et la théorie de la croissance, eh bien, je dis toujours à mes étudiants, vous avez un cycle, vous avez une tendance et vous avez des aléas. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on passe son temps à commenter les aléas et on passe son temps à demander aux économistes pourquoi ils n'ont pas vu les aléas, tout en donnant aux aléas une importance qui, assez souvent, est une importance qui est assez négligeable. C'est-à-dire, ben, la croissance ralentit. Non, non, ce n'est pas le cycle tel qu'il a été théorisé par Samuelson, tel qu'il a été théorisé par la nouvelle macroéconomie classique. C'est un tweet de Donald Trump. Et donc, si effectivement on considère que la science économique, ça consiste à essayer de comprendre Donald Trump, on est dans une situation qui est une situation où l'enseignement que l'on peut porter relève davantage de la psychologie, voire de la psychiatrie pour ce qui est de Donald Trump, que d'un raisonnement et d'une construction logique. Alors, je crois que l'économie, c'est une science dans la mesure où. Pour en revenir à ce que disait Alfred Marshall, dont je parlais l'autre jour, qui est le premier grand professeur d'économie en titre au Royaume-Uni, il expliquait que c'était la science du bien-être matériel, c'est-à-dire la façon dont on pouvait le plus possible et le mieux appréhender les conditions d'amélioration du bien-être matériel des individus, sachant qu'il disait, il y a un autre aspect dans la vie des hommes, c'est le bien-être moral, et ce bien-être moral le relève de la religion. Et donc Marshall disait, il y a deux façons d'appréhender la réalité humaine. Il y a l'économie et la religion, et tout le reste ne peut être qu'au service soit de l'économie, soit de la religion. Il rappelait que la philosophie est au service de la théologie, d'après les principes anciens, et il dit tous les autres éléments de réflexion sur l'humanité doivent être au service de la construction intellectuelle de l'économie. Alors, à partir de là, effectivement, qu'est-ce qui est véritablement scientifique? Qu'est-ce qui peut être utilisé? Qu'est-ce qui peut fonder un raisonnement scientifique? Alors, il y a des théories économiques. Ces théories économiques, là aussi, la méthode qui a été mise en place au XIXe siècle, hein, je vous rappelle, il y a deux grandes phases. Avant Marshall, le premier professeur, non pas organisé comme Marshall, mais le premier à avoir un cours un peu marginal, qui était à Oxford, qui s'appelait William Nassau Senior, avait là aussi consenti à enseigner l'économie, parce qu'il disait « c'est une science ». Il avait envoyé une lettre au chancelier de l'échiquier de l'époque en disant « écoutez, j'accepte d'enseigner, d'être payé sur fonds publics, parce que je ne vais pas faire de la propagande, je ne vais pas essayer d'influencer les étudiants en leur apprenant une vision de la vie, je vais leur apprendre une science. Et si c'est une science, ça doit se construire comme une science, c'est-à-dire, puisque ce n'est pas expérimental, c'est axiomatique et je vais énoncer des axiomes. » Donc, le premier élément, c'est d'essayer d'énoncer des axiomes, c'est-à-dire des principes fondamentaux qui sont des principes sur lesquels nous sommes d'accord. Marshall, lui, il dit, c'est plus que des mathématiques, c'est de la physique, c'est-à-dire on a non pas des axiomes, mais des principes fondateurs qui sont des principes qui relèvent de l'observation. À partir de ces principes fondateurs, on émet des lois, et ensuite ces lois, on les vérifie de façon expérimentale, et l'expérience de l'économiste, c'est l'histoire. Donc je pense qu'effectivement, ce qu'il faut faire comprendre quand on enseigne l'économie, c'est qu'il y a des principes de base. À partir de ces principes de base, on construit des raisonnements, et ces raisonnements débouchent sur des lois que l'histoire va permettre de vérifier. Concrètement, pour moi, les principes de base actuels, c'est les 10 principes de Nicolas Gregory Mankiw, que je répands partout. Je rappelle que Nicolas Gregory Mankiw, c'est le professeur d'économie dont le manuel a remplacé Samuelson. Statistiquement, vous avez entre 60 et 70% des étudiants d'économie au niveau mondial qui utilisent Nicolas Gregory Mankiw. Et la version en français est la version de Debock, qui est un éditeur belge. C'est-à-dire, nous résistons en France à l'invention de l'impérialisme américain sur le plan intellectuel. Ces 10 principes de Nicolas Gregory Mankiw sont les principes fondamentaux sur lesquels, normalement, tout enseignement de l'économie doit se bâtir. Ça reprend en partie les 4 axiomes de Senior. Je vous rappelle, les 4 axiomes de Senior, c'est l'homme est intéressé, la démographie, la quantité d'hommes n'est pas un problème, c'est-à-dire il n'y a pas de limite économique à la population, il peut y avoir des limites morales, des limites juridiques, mais il n'y a pas de limite économique. L'investissement est à l'origine de la croissance, et l'investissement et la croissance se heurtent à des rendements décroissants. Et Mankiw rebondit là-dessus, et puis lui, il rajoute, alors en particulier, il rajoute 2 idées qui sont très importantes et qui méritent débat. La première idée, c'est le rôle de l'État. Il dit l'État a un rôle, mais il s'agit de l'identifier, donc c'est une idée qui est suffisamment générale pour mériter d'être précisée. Et puis le principe 10 de Mankiw, c'est qu'il y a arbitrage de Phillips, c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage entre l'inflation et le chômage. Et donc là, ça pose une question, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident qu'il a l'air de le considérer. Donc je pense que l'enseignement de l'économie, ça suppose qu'on commence par poser et la projection de l'économie dans le débat public, ça suppose de poser une méthode scientifique en disant nous allons construire un raisonnement sur la base d'éléments qui vont être des éléments partagés. Puis ensuite on construit le raisonnement et ce raisonnement est un débouche sur des expériences. Alors on arrive au deuxième aspect de ce que doit être, à mon avis, la méthode de l'économie, c'est que les expériences comme le raisonnement s'appuient sur des mathématiques. C'est-à-dire le raisonnement, il suppose des modèles mathématiques. Et il ne faut pas mélanger les mathématiques de l'expérience économique et les mathématiques de la modélisation économique. Les mathématiques de la modélisation économique, c'est des mathématiques, je dirais, pures, entre guillemets. Les mathématiques de l'expérimentation, c'est l'économétrie. Donc, c'est une branche très particulière des mathématiques. C'est la théorie des régressions, la théorie du traitement du signal, c'est des choses... Et en plus, que là aussi, les mathématiciens et les physiciens connaissent bien, puisque c'est un peu la même chose que le traitement du signal, les ondes sonores et tout ça. Donc, c'est un formalisme qui est assez bien maîtrisé. Donc, il y a des axiomes, il y a un outil qui permet à la fois d'exprimer les lois et de vérifier les lois. Et puis ensuite, il y a la connaissance de l'histoire. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, on va se projeter sur l'histoire, c'est-à-dire l'histoire quantifiée au travers de la statistique. Bon. Alors là aussi, dernier élément sur la méthode, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est de faire comprendre comment on organise la statistique. Il y a en ce moment un débat sur l'indice des prix et je suis effaré quand j'entends la présidente d'une banque centrale dire il faut que l'inflation que nous calculons soit conforme à la perception de l'inflation par la population. On en revient à une vision assez soviétique, c'est-à-dire c'est le comité central, incarnation du pouvoir populaire, qui va définir la réalité de ce qu'on va mesurer. C'est du lysenkisme à l'état pur. La statistique devient un élément du pouvoir politique. Il faut donc, là aussi, utiliser des techniques statistiques. C'est une science, la statistique. Hein. Alors, ça consiste à compter, puis ensuite, ça consiste à, avec tous les pièges, et puis ça s'interprète, la statistique. Vous avez la célèbre image de Claude Bernard que je retiens assez souvent. C'est, une fois qu'on a un résultat statistique, il faut l'être interprété intelligemment. C'est ce que dit Claude Bernard sur le savant qui est persuadé que l'ouïe qui démontre que l'appareil auditif des grenouilles est dans les pattes. Et donc, comment il fait? Il dit, voilà, il apprend une grenouille à sauter à un coup de sifflet. Donc, voilà, là, bon, pof, il coupe les pattes de la grenouille, il siffle, la grenouille saute plus. Donc, il en conclut, puisque la grenouille ne saute plus, alors que la cause initiale, c'est qu'elle n'a pas perçu le bruit. Donc, l'appareil auditif de la grenouille est dans les pattes. Donc, la statistique, c'est à la fois une science, et puis c'est l'art d'interpréter la statistique, c'est aussi une réflexion sur la façon dont on construit l'appareil statistique. Bon, et donc, je rappelle des principes initiaux qui doivent être admis par tous, et qui sont internationalement reconnu, c'est-à-dire Mankiw, c'est bon, on part de là. Ensuite, des raisonnements appuyés sur une maîtrise des mathématiques et sur une expérience qu'on suit sur la statistique appliquée à l'histoire. Alors, sur la vie quotidienne des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement de l'économie doit à la fois être un enseignement de l'économie, mais il doit être coordonné. Et là, je rejoins ce qu'a dit Jean-Louis, mais ce qu'il y avait déjà dans le rapport Guenry. C'est-à-dire que le rapport Guenry, vous savez, Guenry, c'est quelqu'un qui, au début des années 2000, remet un rapport sur l'enseignement, un peu ce qui est devenu la commission Aiguillon. Et il avait identifié effectivement trois véritables problèmes. Le premier problème, c'était un caractère trop ambitieux. Il disait effectivement un programme trop lourd, on veut couvrir trop de choses qui dépasse même ce qu'est l'économie, c'est-à-dire on va faire de la démographie, alors il y a de la sociologie, on va dans des tréfonds de bon. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est qu'il y a une vision systématiquement négative de la réalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression, à lire certains livres d'économie, que sous Charlemagne, on vivait une vie rêvée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis si, ça n'a fait que s'aggraver. Alors, avec enfin, c'est Dickens en permanence. Tout le monde vit au fin fond d'une mine, et croise à 5 heures du matin en venant prendre son travail des enfants qui sont là depuis 2 heures à essayer de ramasser du charbon. Enfin, Apollin Capilino en permanence dans les manuels dit c'est déroutant parce que même quand on fait de la propagande, on pourrait faire de la propagande positive. C'est-à-dire, même une démarche de propagande pourrait à un moment donné montrer quelque chose qui, dans certains lieux et en certaine conformité avec ce que l'on pense, est positif. Pas du tout. Et puis la troisième remarque qu'il faisait, c'était effectivement la déconnexion et la non-maîtrise de l'appareil, de l'outil mathématique par rapport. Voilà. On en revient à ce que je pense. Donc je pense qu'il faut un enseignement simplifié de l'économie, un enseignement qui soit un enseignement fondé sur des principes forts. Et je pense qu'il faut que ce soit un enseignement qui soit associé systématiquement dans la conception des programmes avec l'enseignement de mathématiques et l'enseignement d'histoire. Il y a récemment la fille d'un de mes collègues de BFM qui est en terminale et on parle coût marginal, coût moyen. Alors, le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Et j'ai dit par rapport à la dérivée, ah oui, c'est vrai, le prof en a parlé. Mais c'était l'année dernière, donc. Et à l'époque où il a parlé de ça, on n'avait pas encore fait la dérivée en maths, donc il nous a dit qu'on verrait plus tard. Et puis, on a oublié. Symétriquement, oui, absolument. Alors, en plus, les différentiels, tout ça, qu'est-ce que c'est une formule de Taylor, tout ça, pour plus personne. Bon. Et sur l'histoire, donc j'ai été professeur, c'est comme ça que nous sommes rencontrés à l'ESCP. L'ESCP fêtait l'année dernière ses 200 ans. On m'a demandé de faire la conférence inaugurale, et donc je fais un état des lieux en 1819. Création de l'ESCP, je dis voilà. Et maladroitement, mais sans vouloir provoquer qui que ce soit, je dis, bon, je ne vous dirai pas qui est chef de l'État en 1819, parce qu'on ne va pas... Bon, un de mes jeunes collègues vient me voir après et me dit, non, c'était passionnant, j'ai appris plein de choses. Il n'y a qu'une chose, c'est que tu ne nous as pas dit qui était président de la République en 1819. Elle a un niveau de diplôme, enfin, elle a des doctorats, comme un maréchal soviétique avait des médailles, en fait. De Barta, de toutes les universités possibles et imaginables, du fin fond du Kazakhstan jusqu'à Princeton, enfin bref. Problème qui se pose, effectivement, c'est une perte d'organisation intellectuelle. Chaque matière devient une matière qui est isolée l'une par rapport à l'autre. Mais il n'y a pas qu'en économie. Moi, je suis frappé d'une chose là aussi, mais ça, c'est une digression. Là. Donc, moi, je suis polytechnicien, j'ai un fils qui est polytechnicien. Les programmes ont été allégés, mais je considère que c'était beaucoup plus difficile pour mon fils de rentrer à l'école polytechnique que moi, parce qu'à force de les alléger, il y a des trous qui font que des logiques disparaissent. Moi, il y avait des ensembles où, quand on faisait de la géométrie, on pouvait s'appuyer sur les résultats qu'on avait en calcul différentiel. Là, maintenant, il y a un trou entre les deux. Et donc, les professeurs de physique refont des choses parce qu'ils ne les ont pas vues en maths, etc. Et même le programme de mathématiques allégé est, à mon avis, plus compliqué, parce qu'incohérent, que le programme tel qu'il était à l'époque où je passais les concours. Et je pense que nous sommes arrivés un peu dans la même situation vis-à-vis de l'économie. Il y a eu des formes d'incohérence dans le programme d'économie et d'incohérence dans le rapport entre ce programme d'économie et le programme d'histoire. La conclusion de tout ça, c'est que... Je pense que le danger de l'économie et de l'enseignement de l'économie a été longtemps vécu comme étant un danger d'idéologisation de cet enseignement. Je pense que ce n'est pas faux, mais là aussi, pour raconter des anecdotes et pour conclure, récemment, je trouve que je connais assez bien un certain nombre de responsables slovaques pour des raisons historiques, et il y avait un de mes collègues dans un colloque qui, parce qu'une de mes obsessions, c'est que sont devenus les professeurs de marxisme-léninisme qui enseignaient dans l'Europe de l'Est. Et donc, je lui demande en Slovaquie ce que vous en avez fait. Alors le gars se répand en me disant, en Pologne, on leur a dit, ça fait 40 ans que vous racontez des conneries. Ils ont dit oui. Alors on leur a dit, bon, mais maintenant, vous allez vous mettre au travail. Bon, ils ont dit oui. Il dit, chez nous, en Tchécoslovaquie, on leur a dit, ça fait 40 ans que vous racontez des conneries. Ils ont dit oui. Alors on leur a dit, vous allez vous mettre au travail. Ils ont répondu, oui, mais on ne sait pas. Alors on les a formés. Et puis en Allemagne de l'Est... On leur a dit, ça fait 40 ans que vous racontez des conneries. Ils ont répondu, oh là là, oui, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a souffert. On est obligé de raconter toutes ces conneries. Alors on leur a dit, bon, ben on va compenser. Et on les a payés à ne rien faire. C'est bon. Et puis le gars me dit, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'étais un peu... Et puis je me suis dit, mais finalement, il a raison. Nous avons des professeurs de marxisme-léninisme. Ça s'appelle des professeurs de SES. Et j'ai dit, écoutez, pour l'instant, on ne leur a encore rien dit. Bon, et donc, je pense que, effectivement, leur dire quelque chose, ce ne serait pas totalement inutile, mais si au moins ils continuent à enseigner le marxisme-léninisme, il y aura un fond. Ce que je crains, c'est la perte de fond et qui a comme conséquence la perte de méthode, pour en revenir à ce que je disais, par cette, à la fois, une ambition affichée très large, avec des conséquences qu'en réalité, on fait un certain nombre d'impasses sur un certain nombre de sujets, avec comme conséquence une incohérence dans le message et dans le discours, à la fois en économie, et une inconséquence et une incohérence dans l'articulation entre l'économie, l'histoire et les mathématiques. Or, je pense, et y compris la physique, parce que là aussi, il y a des raisonnements de physique qui, lorsqu'on maîtrise assez bien ces raisonnements, permettent aussi de retrouver comment les économistes ont raisonné. Et donc, modestie, mais cohérence, et cohérence fondée sur des éléments forts qui sont déjà à notre disposition, notamment, encore une fois, au travers de ce qu'on a dans les manuels de Manchu ou dans les manuels anglo-saxons.